Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Les Antipodes.
Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez Le Rendez-vous de l'Étrange, épisode 11. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Soline du podcast Crime Enragé. Bonsoir Soline.
Hey, salut. Salut à tous.
Eh bien, ça fait plaisir que tu aies accepté l'invite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast?
Bah déjà, je suis trop contente d'être ici avec vous ce soir. Et mon podcast, c'est Crime Enragé. J'ai commencé en septembre, donc on a déjà plusieurs épisodes. Et donc, on va parler de faits divers, donc par thématique. La première saison, c'était sur les sectes. Et là, on part sur une deuxième saison sur les disparitions mystérieuses. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit.
Disparitions mystérieuses, ouais, ça, je pense que ça rentre un peu dans notre, dans notre thème. Et du coup, j'ai écouté ton dernier épisode, l'affaire Méchino, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Et c'était une affaire que, tu vois, j'aurais bien aimé traiter. Du coup, je l'ai écouté, tu l'as traité très parfaitement. Du coup, je me suis dit, bon,
c'est gentil.
J'aurais pas à la faire, celle-là.
C'est déjà fait, hop.
C'est ça.
Bon, elle est hyper mystérieuse, cette affaire, elle est super intéressante. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est l'une des affaires qui a été les moins résolus en France. Il n'y avait vraiment aucune avancée pendant des décennies et des décennies. On n'avait absolument aucun indice, il n'y avait rien de concret. Donc l'affaire n'a pas pu avancer et c'est l'un des seuls cold cases en France qui est comme ça, où il y a absolument zéro avancée, mais qui n'en reste pas moins mystérieuse en fait. Donc c'est ça qui est cool.
Bah ouais. Et ce soir, tu vas nous parler de quoi?
Et ce soir, je vais vous parler d'une autre disparition mystérieuse aux États-Unis, d'un jeune homme qui s'est retrouvé dans un endroit bien étrange, dans une situation bien étrange, et je vais vous raconter ça juste après.
Trop cool. Moi aussi, je vais parler d'une disparition, et cette fois, on va partir en Australie. On n'a jamais retrouvé le corps. Par contre, on sait à 99% qui a fait ça.
Ouais.
Le problème, c'est que 99%, c'est pas vraiment suffisant pour entamer des poursuites. Il reste le dernier pourcent, donc on en parlera tout à l'heure. J'aurai aussi plein de choses importantes à vous annoncer, il y aura plein de trucs à vous dire quant à l'avenir du podcast en fin d'émission, donc restez vraiment jusqu'au bout si vous voulez tout savoir, ça va vraiment être cool. En attendant, nous on va y aller, Il me semble que tu m'avais dit que tu voulais commencer.
Ouais, c'est ça, exactement. Pour baisser un peu le stress, je me suis dit, on y va. Donc c'est parti, moi je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joshua Maddux. C'est une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 2000. Joshua Maddux, il est né le 9 mars 1990 à Woodland Park, dans le Colorado, et ses parents étaient divorcés. Il vivait avec son père Mike et ses deux sœurs, Case et Ruth. Et en 2006, il y a quelque chose d'assez intéressant à savoir pour le contexte, c'est que malheureusement, l'un des frères, Zachary, s'est donné la mort à cause d'une dépression, et il s'est donné la mort alors qu'il avait que 18 ans, malheureusement. Donc c'est quand même un événement qui est assez intéressant à savoir dans cette histoire, donc je le mentionne juste ici.
Okay.
Donc pour vous présenter un peu le contexte, Joshua Maddux, c'est un jeune homme déjà de 18 ans qui est très joyeux dans la vie, il est assez positif, il est même considéré comme quelqu'un qui a une intelligence assez créative, c'est un peu un esprit libre, un peu bohème, il aime écouter de la musique, il aime faire les choses de ses mains, il aime écrire pendant des heures et des heures, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un d'assez libre, c'est quelqu'un aussi qui joue de la musique, qui fait de la guitare, qui est assez doué d'ailleurs. Et voilà, donc il aime aussi faire de longues balades pour s'inspirer dans son art avec ses écouteurs. Il aime bien sortir pendant des heures dans la forêt pour écouter de la musique, pouvoir s'inspirer dans des paroles, ce genre de choses pour sa musique. Et c'est ce qu'il fait le 8 mai 2008, il sort marcher un matin. Sauf que le soir, son père se rend compte qu'il n'est pas rentré. Il s'inquiète un peu, mais il se dit, bon, il a 18 ans, et puis, même si ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas prévenir, c'est quand même presque un adulte, enfin, on peut le dire, il a 18 ans, mais c'est un adulte, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets. Mais voilà, c'est un peu étrange, mais on reste un petit peu détendu sur ce côté-là, du côté du père. Mais le lendemain, il se rend compte qu'il n'y a toujours pas de Joshua.
Okay.
Là, il commence un peu à paniquer et à se dire que c'est un peu étrange. Donc, il appelle un peu ses amis, son entourage, voir si quelqu'un aurait pu le voir. Mais personne ne l'a vu depuis ces deux jours-là. Personne ne l'a contacté. Enfin bref, c'est assez étrange et son père s'inquiète. Mais il se dit, bon, on va laisser un peu le temps de se décanter les choses. Et comme je vous l'ai dit, Joshua, c'est quelqu'un d'assez libre, d'assez bohème. Et il s'est un peu convaincu, le père, en se disant, bon, peut-être qu'il est parti quelques jours, une semaine peut-être dans une région et pouvoir un petit peu partir et il va revenir. Voilà, enfin, c'est peut-être juste ce genre de choses. Il est bohème, il est parti.
Il était du genre à faire ça, de partir une semaine sans prévenir.
Bah, il n'était pas du genre à faire d'aussi longue absence, mais comme il était du genre à voilà, parfois bah, effectivement découcher le soir et rentrer le lendemain, il s'est dit, bon, peut-être que c'est ce genre de choses qui s'est arrivé. Il y a peut-être eu une soirée. Bon, peut-être qu'il est resté dormir chez un ami, il devrait revenir, ou alors peut-être qu'il va revenir dans l'après-midi. Il est un peu inquiet, mais il se dit qu'il devrait y avoir des nouvelles. Sauf que, ben, comme vous l'aurez pu deviner, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Et son père décide de déposer donc, un rapport de police le 13 mai 2008. Donc, ça fait presque 5 jours après.
Et
il déclare à ce moment-là, donc je vais citer, il dit « Je me suis levé un matin, Josh était là, il a décidé de sortir, puis il n'est jamais revenu de la maison. Le lendemain matin, quand je me suis levé, il n'était toujours pas là, j'ai appelé ses amis, personne ne l'avait vu, personne ne sait où il est. » Donc là, à ce moment-là, il y a une enquête qui se met en place, il y a quand même des recherches, la police prend ses recherches assez au sérieux, sauf que... c'est pas vraiment des recherches qui sont hyper rassurantes parce que de leur côté, la police, elle pense que c'est un suicide et non pas juste une disparition. Par l'histoire de son frère qui s'était donné la mort, les policiers se sont dit peut-être que c'est sûrement un suicide également, malheureusement, et ils sont plutôt dans la recherche d'un corps. Mais son entourage, sa famille, ben, ils sont vraiment catégoriques. Ils disent non, c'est impossible que ce soit un suicide ou ce genre de choses. Joshua n'était pas du tout malheureux dans sa vie, il était aimé, il avait des projets même un peu musicaux, il n'était pas dans cette optique un peu, il n'était pas triste, il semblait pas avoir de dépression. Donc vraiment, tout le monde est catégorique sur ce point-là, en fait, et même autour de lui, enfin, ses amis, etc., personne ne pense à vraiment un suicide ou ce genre de choses.
Après, on ne connaît jamais vraiment les gens, mais...
Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut laisser le doute toujours et jamais dire, bon, bah, c'est pas possible, il avait l'air très heureux, quoi, mais...
Déjà, ce que je trouve bizarre, c'est l'histoire des 5 jours, là, parce qu'on dit généralement qu'une disparition, c'est les premières 24 heures les plus importantes.
Je suis d'accord, ouais.
Là, c'est clairement mal barré.
Je suis d'accord avec toi. Et d'un côté, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais je me dis que, bon, déjà... D'un côté, il y a ce côté où je pense que le père, je pense pas que ce soit quelqu'un d'hyper réac, hyper strict, et je pense qu'il s'est dit, bon, il va revenir. Je pense qu'il s'est pas trop inquiété sur le moment. Et il y a aussi le côté, je pense, quand une personne disparaît. Alors, dans le Colorado, je ne sais pas si la majorité, elle est à 18 ans ou 21 ans, ça dépend des États. Mais je sais que quand une personne majeure est disparue, c'est aussi beaucoup plus compliqué de commencer à mettre en place des recherches. Donc, après, peut-être qu'il y a eu des précisions comme quoi il serait venu avant et qu'ils auraient dit non, c'est pas encore, ça fait pas encore assez de temps qu'il a disparu. Ça, je sais pas, il n'y a pas eu de précision sur ce côté-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je sais pas, j'essaie de trouver des raisons au père.
À 18 ans, t'es considéré comme un adulte là-bas ou pas?
Bah, ça va dépendre, en fait. Il y a beaucoup ce côté d'alcool, c'est 21 ans.
Ça, c'est sûr,
mais je sais que dans plusieurs états, c'est 18 ans.
Ah, c'est 18 ans, a priori, au Colorado, on nous dit dans le chat.
Ouais, ok.
Donc, effectivement, quand t'as 18 ans, on te cherche beaucoup moins, je pense. Enfin, quand t'es majeur.
Ouais, C'est ça, c'est, on est beaucoup moins inquiet parce que je pense qu'il y a ce côté où tu sais...
Et t'as le droit de partir.
Ouais, c'est ça, tu peux disparaître du jour au lendemain sans donner de nouvelles et c'est considéré comme OK en fait. Donc je pense qu'il y a eu ce côté-là aussi où il y a eu peut-être un peu de décalage sur la mise en place de l'enquête et tout. J'ai pas eu de précision de ce côté-là, donc je vais pas en dire plus.
Okay.
Enfin voilà, il y avait ce côté où vraiment tout le monde dans son entourage, pour eux c'était impossible que ce soit un suicide. Et même c'était improbable que ce soit quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal parce que il connaissait pas d'ennemis spécifiques à Joshua, il était hyper apprécié de tout le monde, donc il y avait ce côté-là aussi où il savait pas vraiment qui aurait pu lui faire du mal. Et autres éléments aussi, Joshua ne prenait pas de drogue dans son entourage. Voilà, il y avait pas ce côté, il ne prenait absolument aucune drogue et il y avait pas de signe qui montrerait qu'il avait eu un trouble mental quel qu'il soit, donc autre que la dépression. Enfin voilà, il n'y avait pas du tout ce côté-là. Après, peut-être qu'il y a eu et que ça n'a pas été détecté, mais dans les faits, on n'a pas ces éléments-là et pour eux, il n'y avait pas du tout ces problèmes-là.
Ok.
Donc déjà, ça fait quelques petits éléments. Et en fait, ses sœurs, elles, pendant les recherches, elles s'étaient aussi convaincues, donc les deux grandes sœurs, elles s'étaient convaincues que leur frère, en fait, il était juste effectivement parti faire sa vie ailleurs du jour au lendemain, comme on l'avait dit. Elle préférait penser que peut-être il allait essayer de faire sa vie dans un nouvel état, dans une nouvelle ville, essayer de vivre de sa musique, un petit peu partir du jour au lendemain avec sa guitare. En fait, elles essayaient, je pense, de se convaincre, mais...
Pour se rassurer, ouais.
Ouais, je pense qu'il y avait ce côté où vraiment elles se rassuraient, et au fond, est-ce qu'elles y croyaient? Je ne suis pas sûre.
Ouais, parce ouais, est-ce qu'il était proche d'elle?
Ben... Ça, alors, il n'y a pas eu de précision sur ce côté-là. Et après, vraiment, la description comme quoi c'était quelqu'un d'assez bohème d'esprit. Je comprends aussi cette démarche-là, mais je pense que c'était pour se convaincre plus. Mm. Et donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois, malheureusement, on ne va pas avoir d'avancée dans cette enquête. On ne va pas trouver Joshua. Et les années vont passer. 7 années exactement vont passer.
Okay.
Les recherches ont un peu continué, mais au bout d'un moment, elles se sont essoufflées, il n'y avait pas du tout de preuves, donc forcément, ça s'est un peu effacé. C'est en 2015 que tout change. C'est le 6 août, précisément, qu'on fait une découverte terrifiante. On fait la découverte d'un corps momifié, retrouvé dans la cheminée d'une cabane, à 2 pâtés de la maison familiale des Madux.
Ah ouais, juste à côté.
Juste à côté, okay. De la maison familiale. Et cette cabane, pour en parler un petit peu plus, elle appartient à un monsieur qui s'appelle Chuck Murphy et qui a acheté cette cabane dans les années 50. Voilà. Et son frère, il avait vécu dans la cabane jusqu'en 2005. Et voilà, donc entre 2005 et 2008, il n'y a personne qui a vécu dans cette cabane. Murphy disait lui-même qu'il mettait un peu des stocks de temps en temps, mais que personne n'avait habité cette maison. Et... voilà, entre 2005 et 2008, personne.
Okay.
Il y allait de temps en temps juste pour ranger un peu des choses, mais il y allait assez rarement. Et d'ailleurs, il témoignera que quand il s'y rendait, il y avait les dernières années notamment une odeur épouvantable. Pour lui, c'était les rats, c'était la moisissure ou autre. Enfin, il ne s'est pas vraiment inquiété, mais c'est assez intéressant de savoir ça quand même. Donc en 2015, Murphy, lui, il décide de développer un projet immobilier sur son terrain. Il en a marre, donc il décide un peu de tout casser, de tout raser pour faire un nouveau projet. Il entreprend des travaux et ce jour-là, son équipe de rénovation a démoli la cabane. Et c'est là que l'excavatrice, lorsqu'elle commence à démolir la cheminée, elle trouve ce corps humain momifié qui est penché, donc pour vous expliquer, en position fœtale. Est vraiment fourré avec ses jambes au-dessus de la tête, donc sa tête est vraiment en bas en fait. Donc vous voyez le chemin de cheminée qui traverse le toit, les jambes en hauteur et sa tête en bas. Donc, une position assez étrange, je pense qu'on peut tous se le dire. Bien sûr, il a immédiatement appelé la police et à leur arrivée, les policiers et le coroner du comté qui étaient accompagnés d'experts médico-légaux ont utilisé des dossiers dentaires pour identifier le cadavre et les résultats sont autres que ce disparu, malheureusement, de Joshua Madux.
En gros, il était coincé dans le conduit.
Il était coincé dans le conduit et à l'envers, donc vraiment la tête en bas et les jambes en haut. Il y a des photos, alors j'en ai pas préparé pour ce soir, mais je crois qu'il y avait une photo ou deux que j'ai trouvée sur Internet, si jamais vous voulez voir, qui représentait un peu comment il était placé.
Ok.
Assez intéressant à voir, c'est un dessin bien sûr, hein, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, donc là, les autopsies révèlent plusieurs choses. Déjà, de un, Joshua n'avait pas de drogue dans son système. Le corps n'avait pas d'os cassé. Il n'avait pas non plus souffert de blessures par balle ou par un couteau ou par une arme blanche, quelle qu'elle soit. Bref, c'est hyper bizarre. Le coroner, lui, va déclarer que la mort de Joshua, elle n'était pas soudaine et qu'il était très probablement mort d'hypothermie ou de déshydratation.
Ok.
Sa mort, elle a été déclarée donc accidentelle par Bourne. Voilà, en vrai, on aurait pu dire que c'est pas si mystérieux que ça. Enfin, c'est un peu mystérieux, mais voilà, on aurait pu dire qu'il aurait pu rentrer par l'extérieur et se retrouver bloqué et ne pas pouvoir rentrer dans la cabane et mourir comme ça, en fait.
Ouais, c'est la première chose qu'on se dit, effectivement, ouais.
C'est ça. Sauf que c'est là où l'histoire, elle se complique, elle devient un peu plus mystérieuse. C'est qu'un dernier élément, c'est que Joshua, il ne portait rien d'autre qu'une espèce de chemise thermique veste longue. Donc, il portait uniquement ça, rien d'autre.
Juste ça.
Juste ça, c'est-à-dire que le reste de ses vêtements, y compris donc son pantalon, ses chaussettes, ses chaussures, se trouvaient à l'intérieur de la cabane, soigneusement pliés, à côté de la cheminée. Et là, on commence à se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Comment? Pourquoi il a été retrouvé de l'extérieur dans ce conduit, alors que ses vêtements sont soigneusement pliés à l'intérieur?
C'est comme s'il recherchait à rentrer, comme s'il avait été enfermé dehors.
Ça devient hyper étrange. Ben, je pense qu'il y a eu plusieurs théories à ce propos. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, parce qu'au final, c'est ce qu'on va pouvoir juste alimenter. C'est des théories, malheureusement. En plus, c'est l'hypothèse que le coroner Bourne dira, c'est que Joshua Maddux, déjà, c'est quand même un grand gaillard. Il mesurait 1m82 pour 70 kilos. Et il aurait tenté de descendre la cheminée, mais si c'était vraiment le cas et qu'il se serait échoué, il aurait été trop loin en fait pour ressortir, puis pour aussi crier et que personne ne l'entende. Donc il pense qu'il serait mort comme ça, bloqué, en criant des appels à l'aide et en restant décédé comme ça. Mais le mystère c'est là, c'est pourquoi il serait entré par la cheminée pour arriver à l'intérieur du chalet si on a retrouvé ses vêtements soigneusement pliés dans le chalet près de la cheminée. C'est là le mystère en fait. Et on comprend pas. Murphy, d'autre part, lui, il témoignera et il dira que c'est impossible que sa mort elle soit le résultat d'un accident. Pourquoi ? Parce que dans la cheminée, en fait, dans le conduit, il y avait une grosse grille qui empêche le passage d'une personne de l'extérieur vers l'intérieur. Et il aurait fallu retirer cette grille qui est absolument lourde, qui est difficile à enlever, qui est installée là depuis plus de 30 ans.
Ouais, elle y était là.
Ah ouais, elle y était.
Ouais.
Alors, donc selon lui, quelqu'un aurait peut-être fourré Joshua dans la cheminée de l'intérieur. Mais si tel est le cas, il aurait fallu au moins deux personnes pour le pousser de la manière dont il a été découvert. Parce qu'en plus, Joshua, il a été retrouvé, donc je le rappelle, mais la tête en premier, donc c'est-à-dire la tête en bas. C'est hyper étrange. Déjà, logistiquement, c'est très bizarre et comment le faire. Et il y a d'autres éléments, ça ne s'arrête pas là, le mystère continue parce qu'il y a beaucoup d'autres, quelques autres éléments. C'est que déjà, première question, comment ça se fait que Murphy, donc le propriétaire de la cabane, pourquoi il n'aurait pas vu ses vêtements soigneusement pliés si pendant 3 ans, il aurait visité un peu la maison et à chaque fois, il ne voyait rien. Il s'est un petit peu expliqué en disant que 3 ans avant la disparition de Joshua, donc en 2005, il avait mis des barres d'armature en acier devant la cheminée pour en fait boucher le froid et sans doute limiter un peu les dégâts possibles avec le froid vu qu'il n'y allait plus souvent, donc sans chauffage et tout, je pense qu'il voulait limiter un peu la casse. Et c'est de sorte à ce qu'on ne voyait pas la cheminée quand on y allait et c'est pour ça qu'il n'aurait pas vu ses vêtements. Donc Joshua, il serait entré, enfin voilà, c'est un peu mystérieux et surtout l'affaire elle va être encore plus mystérieuse parce que le coroner Bourne, lui, il va dire qu'en arrivant sur les lieux du crime, il va dire qu'il n'y avait aucune barre d'armature. Elle n'avait pas été retrouvée et la cabane en revanche, elle était sur une zone de construction et la barre elle avait été démonté préalablement et retiré. Donc, c'est sans doute la possibilité la plus probable, mais lui, il l'a pas vu. Et cependant, il y avait une énorme barre en bois qui avait été retirée d'un mur de la cuisine et placée, elle, devant la cheminée. Donc ça, c'est assez étrange. Donc il aurait vu ça. Et là, il y a un autre mystère, c'est qui dit vrai aussi. Est-ce que la cheminée était vraiment couverte? Est-ce qu'il y a quelque chose à se cacher de ce côté-là aussi? Je sais pas. La théorie, ce serait que Joshua serait rentré de lui-même, il aurait enlevé ses vêtements, ses chaussures, ses chaussettes, puis il aurait grimpé dans cette cheminée. Et si oui, enfin, comment, si ce serait passé comme ça, comment ce bar de bois se serait retrouvé devant la cheminée? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
Il y a eu une intervention, de toute façon.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il ne pouvait pas être seul. S'il est rentré dans cette cheminée, il y a bien quelqu'un qui a recouvert cette cheminée de la planche de bois. Donc c'est hyper étrange, et... Malheureusement, avec toutes ces incohérences, en fait, la cause va être déclarée comme une mort accidentelle, même s'il y a énormément, énormément de mystères autour de cette histoire. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de preuve. Alors, il y a eu une histoire d'un suspect quand même. L'un des suspects, apparemment, ce serait quelqu'un qui était assez proche de Joshua avant sa mort, qui s'appellerait Andy, donc Andrew Richard. Et apparemment, c'était l'une des dernières personnes qui aurait vu Joshua vivant. Alors, j'ai pas eu l'information de quand est-ce qu'il l'aurait vu, mais apparemment, c'est l'information qui est sortie, c'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Et pas seulement ça, c'est que y a un témoin qui aurait dit que, justement, ce Andrew se serait même vanté d'avoir poussé Joshua et de l'avoir même poussé dans un trou.
Ok.
Et sachant, alors, quand on cherche un peu le passif de Andrew Richard, c'est pas n'importe qui, enfin, c'est pas un monsieur comme ça lambda qui raconte sa vie et qui raconte ses petites histoires. Il a un passé criminel assez important, il a déjà attaqué des policiers, il avait déjà fait un braquage avec coups et blessures, et il avait déjà été accusé d'avoir poignardé une femme. Donc c'est quand même des choses qui sont assez... c'est pas rien, c'est quand même des choses qui sont assez horribles, et il y a eu beaucoup d'histoires sur ce côté-là, il y a eu... on ne savait pas vraiment si c'est avéré ou pas, mais il a été suspecté dans cette affaire très longtemps. Et les amis de Joshua, eux, vont tenter pendant plusieurs années de faire enquêter, la police sur Andrew, justement, ouais, pour voir s'il n'aurait pas quelque chose à voir dans cette histoire. Mais malheureusement, la police a rejeté cette demande plusieurs fois. Elle n'a pas voulu creuser un petit peu plus de ce côté-là, donc on n'en saura pas plus. Mais c'est quelque chose que je voulais mentionner quand même, parce que c'est l'une des seules théories qui tient vraiment la route, parce que les autres, on ne peut que les imaginer, on ne peut que en discuter. Voilà.
Donc, et j'avais sûrement rien contre lui, aucune preuve matérielle. C'est comme Murphy.
C'est qu'un témoignage, voilà.
C'est Murphy a juste sa parole. Après, c'est quand même super bizarre qu'il ait rien remarqué en 7 ans.
Ouais, c'est ça. Bah, alors, du coup, il y a eu jusqu'en 2005, son frère habitait dans cette maison jusqu'à son décès. Et donc, du coup, entre 2005 et 2008, il a fait quelques allers-retours. Et c'est à partir de 2008 la disparition de Joshua, ouais, Maddux. Et là, effectivement, c'était des allers-retours assez rares. Mais c'est vrai qu'en 7 ans, je trouve que c'est assez étrange. Et pour vous donner mon avis, je pense qu'il cache des choses et qu'il ne nous dit clairement pas tout. Je pense que peut-être qu'il a eu écho de certaines choses, mais c'est que mon instinct qui me le dit. Après, je ne sais pas trop ce que tu en penses, toi.
Ben, je me dis qu'une cabane abandonnée pendant autant de temps, est-ce que c'était connu que c'était un squat ou pas du tout
Il n'y a pas eu trop d'histoire de ce côté-là. Ils ont simplement dit que c'était vraiment une cabane qui était laissée à l'abandon.
Ouais.
Après, comme il y avait des stocks, etc., que Murphy mettait de temps en temps, apparemment, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des squatteurs qui viennent de temps en temps, mais j'ai pas eu de preuves de ça, donc je vais pas l'avancer.
Ouais. Mais c'est vrai que il devait quand même y avoir une sacrée odeur, parce que t'as un cadavre, ouais, clairement dans ton conduit de cheminée, tu vois.
Et justement, est-ce que la question aussi, c'est est-ce que la planche de bois qui a été posée sur la cheminée, sur le trou de la cheminée, ça aurait été pas, je sais pas, peut-être pour au-delà de boucher et cacher le corps, peut-être boucher un peu l'odeur, enfin essayer de couvrir l'odeur comme on peut, je sais pas trop.
Celle-là, on sait pas qui l'a posée.
Non, on sait pas du tout qui l'a posée, donc est-ce que c'est Murphy? Est-ce que c'est la personne qui était avec Joshua? Il n'y a pas trop eu d'histoire de ce côté-là, il n'y a pas eu trop de précision, mais je vous avoue, quand j'ai découvert cette histoire, elle m'a beaucoup... Elle m'a presque obsédée à un moment parce que je comprenais pas, et je comprends toujours pas, comment il a pu se retrouver bloqué dans ce conduit de cheminée avec ses vêtements posée soigneusement à l'intérieur. Et même s'il y a des personnes qui ont peut-être été impliquées dans ce meurtre, ou alors dans ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé même dans ce cas-là? Est-ce qu'ils l'ont vraiment poussé par les pieds? Est-ce qu'ils... Voilà, j'arrive pas à visualiser le truc, en fait. C'est vraiment étrange.
S'il y avait une autre personne sur le toit qui l'aurait poussé, ça explique pas non plus les vêtements.
Ouais. Bah, alors, il y a eu... je sais pas si vous connaissez, très sûrement, si vous êtes un peu adepte du true crime, la très fameuse Victoria Charlton qui avait traité cette affaire il y a plusieurs années maintenant. J'avais vu sa vidéo et il y avait des choses qu'elle avait dit, mais j'ai pas voulu les redire parce que je n'ai pas trouvé les sources et je voulais pas... voilà. Mais effectivement, avec l'histoire de Andrew, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi peut-être que ce serait un couple homosexuel un peu refoulé qui serait allé dans la cabane ensemble, qu'ils auraient eu une dispute et que ce se serait mal terminé. Et justement, il y avait eu cette théorie comme quoi peut-être qu'ils se seraient disputés sur le toit et qu'il y avait eu une histoire où il y en aurait peut-être un qui avait poussé l'autre ou de l'intérieur. Mais c'est vraiment que des suppositions assez fumeuses, on va dire, donc... Mais on peut carrément débattre sur ça et alimenter un peu ces théories. Moi, je suis pour, hein, mais je trouve ça assez étrange, en fait. C'est assez intéressant, mais bon.
Ici, on part sur une dispute. Ça pourrait peut-être être une façon de cacher le corps, de le glisser dans la cheminée.
Bah oui, en vrai, ça pourrait être vraiment un moyen. Et est-ce que, aussi, la question, c'est est-ce que la personne ne voulait pas peut-être brûler le corps et qu'elle a peut-être pas réussi, ou je sais pas, mais je sais pas. Il y a peut-être aussi ce côté-là, peut-être qu'il voulait le faire disparaître complètement, qu'il n'a pas réussi, qu'il a abandonné là. Il y a vraiment trop de mystères dans cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, je n'ai pas trop regardé. J'étais concentrée sur raconter l'histoire de manière qualitative.
Non, il y a Inis qui dit qu'il va se disputer sur le toit. Mais moi aussi, je me faisais la même réflexion. Et c'est pour ça que je me disais peut-être qu'il y a eu une dispute, que ça a mal tourné. Et du coup, après, il l'a mis, je sais pas, il savait pas où mettre le corps, sur le toit.
Ouais, c'est... Bah, puis même, enfin...
Par contre, faut quand même... Je sais pas comment il fait la cabane, mais grimper avec un corps, après, est-ce qu'il y avait une échelle? Est-ce que c'était simple? Il était pas très lourd, enfin...
Il faisait 70 kilos, selon les descriptions.
Ouais.
Mais en fait, la question, c'est... Enfin, dans les deux sens, qu'il soit rentré par l'intérieur ou par l'extérieur de la cabane, il y a beaucoup de mystères dans les deux sens. C'est-à-dire que même de l'extérieur, il y a encore cette histoire de grille aussi, mine de rien. Et la grille, c'est quelque chose, selon Murphy, qu'il aurait fallu vraiment enlever. Enfin, tu ne pouvais pas l'enlever comme ça depuis le bout de cheminée. Donc, c'est aussi ce côté-là qui est assez intrigant. Et donc, aussi la rumeur sur le fait que Andrew et Joshua seraient peut-être un couple refoulé, qu'ils étaient cachés aux yeux de tous et qu'ils ne voulaient pas se montrer. Et peut-être qu'il y avait une dispute par rapport à ça. Encore une fois, aucune preuve, donc on ne peut pas l'affirmer, mais ouais, même une dispute, je ne sais pas à quel moment tu vas sur le toit.
À aucun moment tu vas sur le toit, je pense, dans tous les cas.
Voilà, et donc c'est impossible. Je pense que si la personne, ou même deux personnes, moi ça me semble impossible que deux personnes portent un autre corps ou une autre personne pour l'emmener sur le toit. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais logistiquement, il faut vraiment que ce soit deux personnes bien gaillardes, quoi. Je ne sais pas.
Puis je sais pas, une cheminée, ça me viendrait jamais à l'idée de cacher un corps. Surtout qu'il fallait le savoir qu'il y avait une trappe qui empêchait le corps de tomber dans la cheminée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui savait.
C'est pour ça que Murphy, est-ce qu'il nous dit pas tout, en fait? Parce que...
Murphy, je trouve qu'on l'a mis rapidement de côté, en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'ai pu voir un petit peu, alors il n'y a pas non plus 1000 détails sur cette affaire, mais ce que j'ai vu, c'est qu'entre le coroner et Murphy, justement, il y avait quand même des petits conflits d'intérêts. Enfin, je sentais qu'il y avait un peu des tensions, pas des conflits d'intérêts, mais plutôt des tensions entre eux, parce que l'un et l'autre n'étaient pas d'accord sur leur version. Donc, c'est aussi ça, mais je sais pas. En tout cas, j'espère que c'est une histoire qui vous a plu, et j'espère que je t'ai fait un peu frissonner avec cette histoire de disparition et meurtre mystérieuse, du coup.
Bah, carrément, c'était trop cool.
Je le fais.
Ok. Eh ben, écoutez, je crois qu'on va essayer de passer à la mienne.
Yeah.
Moi, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu en 2017 dans le nord de l'Australie, plus particulièrement dans un petit village isolé qui s'appelle Larima. Et quand je dis petit village et isolé, j'insiste vraiment sur le terme. Hein. En 2017, le village comptait seulement 12 habitants.
Okay.
le téléphone capte pas là-bas. Le village le plus proche, il est à 75 km. Et même dans ce village, tu vois, il y a 350 habitants.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, vraiment le coin.
Ouais, c'est paumé. On est vraiment au milieu de nulle part. Donc j'ai regardé quand même un petit peu ce qu'on pouvait faire à Larima. Il y a un hôtel, le Larima Hotel, 3 étoiles sur TripAdvisor, 3,9 sur Google Maps. On le connaît aussi sous le nom du Pink Panther Club, parce qu'il y a une panthère rose géante à l'entrée. On peut aussi donner à manger à Sam et Agro, les deux crocodiles de l'hôtel.
Right.
Je pense pas qu'ils soient comptabilisés dans les 12 habitants, mais ça tombe jamais. Il y a aussi un musée classé au patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. C'est un bâtiment de l'armée qui servait de répéteur téléphonique et de centrale électrique. Okay. Il y a aussi une station-service abandonnée. Et vous pourrez aussi vous arrêter chez Fran pour déguster des tartes faites maison. Donc voilà un petit peu la vie de ce petit village. Et quand on se promène dans le village, ce que j'ai fait sur Google Maps en Street View, on sent que c'est un endroit vraiment isolé et que la population est assez pauvre quand même. Donc voilà, on a un petit peu le contexte. Donc si on revient à notre sujet, moi je vais vous parler de la disparition de Patrick Moriarty, que tout le monde appelait Paddy. Il avait 70 ans au moment des faits en 2017, et c'était un Irlandais qui s'était expatrié en Australie à l'âge de 18 ans. Dans sa jeunesse, il avait participé à pas mal de concours de rodéo, il travaillait dans des ranchs. Il a eu quelques relations, mais il semblait être célibataire depuis 2003. Il est arrivé à Larima en 2008, et en 2010, il a acheté justement la station de service désaffectée pour en faire sa résidence.
Ok.
Paddy avait une routine stricte. Tous les matins, il promenait sa chienne, qui s'appelait Kelly, jusqu'à la décharge derrière sa propriété. Il quittait d'ailleurs jamais sa maison, son Kelly. Ensuite, à 9h, il prenait son quad, avec Kelly à l'arrière, pour aller travailler à l'hôtel, le Larima Hotel, donc, hein, à 300 mètres de chez lui. Et pendant toute la matinée, il s'occupait des tâches d'entretien, donc lessive, nettoyage, jardinage. Et l'après-midi, il sirotait des bières tranquillement sur sa chaise au bar de l'entrée de l'hôtel. Et il saluait les clients. Et ensuite, à 16h30, il reprenait son quad pour rentrer chez lui. Il pouvait rester parfois un petit peu plus longtemps s'il discutait avec des clients. Donc voilà, vie simple, routine simple. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse, sa disparition. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé la journée du samedi 16 décembre 2017. Paddy et Kelly sont arrivés à l'hôtel le matin, comme d'habitude. Paddy s'est ensuite occupé de l'entretien de l'hôtel toute la matinée, comme d'habitude. Il s'est ensuite installé sur sa chaise avec Kelly à ses pieds, comme d'habitude. Une famille de touristes a d'ailleurs pris une photo de Paddy sur sa chaise ce jour-là. La famille a caressé Kelly et a même proposé à Paddy leur reste de poulet pour que Kelly les mange. Il a accepté. Ensuite, Paddy est allé voir son patron pour lui dire qu'il ne serait pas présent le lendemain, mais qu'il passerait quand même le midi pour emprunter une tondeuse à gazon pour sa propriété. Et sur ce, vers 18h30 environ, Paddy a enfourché son quad avec Kelly et on ne les a plus jamais revus.
Ok, c'est bizarre là, jusqu'ici. Ok, tout s'est passé comme d'habitude.
Sauf la fin, quoi.
Sauf la fin, voilà, c'est juste ça. Ok.
Les habitants de Larima se sont inquiétés assez rapidement pour Paddy, parce que c'est vrai que tout le monde le connaissait, hein, tout le monde connaissait ses routines. Alors des proches se sont présentés chez lui dès le lundi soir. La dernière fois qu'on avait vu Paddy, c'était le samedi. Donc on s'attendait à ce qu'il aille travailler à l'hôtel le lundi, donc ce qu'il n'a pas fait. Donc ils se sont rendus chez lui, mais aucun signe, ni de Paddy, ni de Kelly. On aurait dit que Paddy et son chiot avaient quitté la résidence très brusquement, au milieu du repas. Le portefeuille de Paddy était posé sur la table de la cuisine, la porte arrière de son domicile était déverrouillée, alors que lui, dès qu'il sortait de chez lui, il verrouillait toujours ses portes. D'ailleurs, les restes de poulet qu'on lui avait donnés pour Kelly étaient encore au micro-ondes. La table était dressée avec de la nourriture dans les plats. Il y avait aussi des croquettes dans les bols de Kelly. Le lit était fait et le ventilateur était allumé. Il y avait une batte de baseball sous le lit.
Ok. Là, c'est clairement pas... Enfin, c'est des éléments où clairement, il y a pas de départ prévu. C'est un repas normal.
Ouais. Il devrait être là, quoi. Il devrait être
voilà,
là.
Voilà, tout est en place, sauf eux, quoi. C'est vraiment... Ça.
Il y avait aussi un pluviomètre que Paddy vidait à chaque fois qu'il pleuvait. Il avait plu le samedi soir... Et il n'avait pas été vidé.
Ok.
Voilà. Il y avait aussi sa casquette et son chapeau de cow-boy à l'intérieur. Et a priori, il quittait jamais son domicile sans quelque chose sur la tête. A priori, il avait un petit complexe de calvitie.
Ok.
Donc a priori, il s'est passé quelque chose qui l'a poussé à sortir rapidement de chez lui, sans même prendre le temps de mettre sa casquette, quoi. Il serait pas non plus allé très loin, car son quad et son 4x4 étaient garés toujours devant chez lui.
Okay.
Par contre, on n'a jamais retrouvé les clés du 4x4. Donc a priori, il devait les avoir sur lui lors de sa disparition. Les proches de Paddy n'ont pas forcément d'abord pensé à un crime. Ils ont commencé à le rechercher dans les alentours, mais ils n'ont trouvé aucun signe de lui, ni de Killy d'ailleurs. Les recherches étant infructueuses, ils ont appelé la police le mardi dans l'après-midi. Elle est arrivée l'après-midi suivant, le mercredi 20 décembre donc.
Ok.
Ouais, on était 4 jours après sa disparition. Là, quand on disait tout à l'heure que les 24 premières heures étaient importantes, bah là, ils n'avaient pas l'air spécialement très pressés, quoi.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait un certain âge, il avait 70 ans, qu'il n'avait pas de famille, et du coup, bah, je sais pas, personne n'était ultra pressé? Je ne sais pas.
Ou peut-être que, enfin... Parce que du coup, sa disparition, elle a été assez... Elle a été vite perçue par les autres villageois du Mati, c'est ça?
Bah en fait... A priori, il serait disparu le samedi et les gens sont allés le voir le lundi soir.
Ok, donc son absence, elle a été vite perçue quand même au bout ouais. de 3 jours. Bon, en plus, le village, tu m'as dit, ils sont pas beaucoup, ils sont 12. Donc, ça veut dire que clairement, là, quand même, Anguille sous roche, je suis impatiente de savoir un peu la suite. J'espère que tu as d'autres éléments pour nous aiguiller.
Bah, en tout cas, la police a déployé aussi des efforts pour le trouver.
Ouais.
Mais rien de plus, toujours aucune trace. D'ailleurs, si on se promène en Street View, on peut encore voir l'affiche de recherche de Paddy à son adresse. Après, le passage de la voiture de Street View, il datait de 2018. Donc, c'était encore, ça avait un an, quoi. C'était encore assez récent.
Ok.
Au bout d'un moment, la police a quand même indiqué qu'il était de plus en plus improbable que Paddy et Killy se soient simplement égarés et se soient perdus. Il était donc plus probable que la vie de Paddy ait pris fin d'une manière ou d'une autre. La question, c'est de savoir comment, quoi. Donc, une enquête a été lancée en 2018 et a été confiée à un coroner. Alors, comme en France, à ma connaissance, on n'a pas de coroner. Hein. Donc, je vais expliquer un peu son rôle en Australie, en tout cas. C'est un peu comme des juges, mais seulement sur les décès. Par exemple, les décès de cause inconnue, les décès violents, les homicides, les suicides, les overdoses.
Okay.
Chaque coroner a sa juridiction territoriale. Et du coup, on fait appel à lui... si on est sur une affaire qui est liée à un décès, quoi. Par contre, contrairement à un vrai juge, il n'a pas le pouvoir de faire appliquer la loi. Par contre, il peut assigner des témoins à comparaître, il peut aussi fournir des mandats de perquisition, il peut aussi autoriser des examens post-mortem, exhumer des corps, si besoin, ou même décider de remettre un corps à sa famille. Et donc, l'enquête menée par un coroner ne peut pas, par contre, déclarer quelqu'un de coupable du décès de quelqu'un, tu vois. Si
ouais.
Il remarque qu'il y a quelqu'un qui est très suspicieux et qu'un acte criminel a été commis, eh ben il doit escalader en fait l'enquête et la confier au directeur des poursuites pénales qui sera lui chargé de reprendre la suite du dossier.
Ok. Donc ils n'ont pas un gros pouvoir décisionnaire sur la suite des événements. Ils sont juste un peu, ils creusent un peu tout ça et une fois qu'ils ont quelque chose d'assez solide, ils vont.
C'est ça.
Okay.
C'est comme ça que ça se passe en Australie, je sais pas si le coroner a le même rôle dans tous les pays, mais en tout cas, dans notre affaire, c'est comme ça que ça fonctionne.
Okay.
Je tenais à l'expliquer parce que ça va être assez important en fait pour la suite. Donc, concernant notre affaire, elle a été confiée au coroner du territoire du nord de l'Australie, qui s'appelle Greg Cavanagh. Il a conclu que Paddy était probablement mort d'un acte criminel la nuit même de sa disparition, le samedi 16 décembre 2017, et je le cite, « À mon avis, Paddy a été tué, probablement à cause d'une querelle en cours qu'il avait avec ses voisins les plus proches. »
Ok.
On a une piste, déjà.
Ouais.
Il a fait, justement, un dossier de 32 pages que je vous invite à lire. C'était plutôt intéressant. On le lira après l'enregistrement, parce qu'il y a des photos. C'est assez cool à lire. Donc, dans ses conclusions, il raconte les relations entre Paddy et les différents habitants de la ville. Ils sont que 12, hein, je vous le rappelle. Et sur ces 12, il y en a deux qui se distingue plus particulièrement dans la disparition de Paddy, Frances Hodges, que tout le monde surnomme Fran, et Owen Laurie, son jardinier.
Ok.
Donc ce sont effectivement ses voisins les plus proches. On va commencer par Fran, 75 ans, et si vous suivez bien, ce nom doit vous dire quelque chose, parce que je vous ai parlé des tartes maison de Fran que vous pouvez déguster. Effectivement, c'est la propriétaire d'un salon de thé, le Fran's Tea House, qui est situé juste en face de l'ancienne station-service où habitait Paddy. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu des querelles. Ça a commencé lorsque Fran a divorcé de son mari et l'a expulsé de la maison. Donc Paddy, lui, s'était rangé plutôt du côté du mari. Du coup, ça n'avait pas trop plu à, Fran. À un moment donné, Fran a banni Paddy de sa propriété. En représailles, Paddy a érigé une clôture sur la sienne pour empêcher les clients du salon de thé à se garer, en fait.
Ok, donc il a également... ça montait un peu loin.
Ouais, il y avait plein de trucs. Il a mis une pancarte devant sa maison qui indique que les meilleures tartes de la ville se trouvent à l'hôtel et qu'elles sont deux fois moins chères. Et du coup, sur Street View, c'est pareil, je l'ai vu, cette pancarte. Il était toujours là un an après sa mort, quoi. Mais j'ai pas trouvé, par contre, de photos récentes pour savoir si elle y était encore.
Ah, mais bon, ça devait être vraiment... c'est une bonne querelle, je pense, déjà, entre voisins, entre guillemets, puisque là... pour en partir à faire des grillages, des histoires comme ça et tout, je pense que c'est vraiment... ça devait vraiment être sérieux, quoi.
Ouais, il y avait énormément de trucs entre eux. Paddy, par exemple, il disait à tout le monde que les tartes de Fran étaient minuscules et qu'elles étaient de mauvaise qualité. Il était allé jusqu'à accuser Fran, qui affirmait du coup que ses pâtisseries étaient faites maison, de vendre des aliments de supermarché surgelés réchauffés.
C'est pas cool.
Ah ouais, non mais il y a eu plein de trucs. Fran, elle pensait que du coup, lui et son ex-mari, ils empoisonnaient ses plantes. Ils coupaient les câbles de caméra de sécurité, provoquaient des inondations sur sa propriété.
C'était vraiment pas rien, quoi.
Non, c'est pas rien. Il y a eu 7 années, en fait, de querelles avant la disparition. Et durant ces 7 années, Fran a appelé la police au sujet de Paddy à 10 reprises.
Ok.
Pour diverses infractions, quoi. En plus des accusations d'empoisonnement, alors elles n'ont pas pu être vérifiées par la police, donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est Fran qui a inventé des trucs.
Ouais.
Mais elle a aussi déposé d'autres plaintes. A priori, il changeait souvent la pancarte de son enseigne de ouvert à fermé. Ça, je trouve ça plutôt rigolo aussi. Il plaçait aussi des bouteilles en verre sous les pneus des voitures de ses clients. A priori, selon elle, il volait aussi de temps en temps des trucs sur sa propriété.
Ok. C'était vraiment des trucs quand même assez forts, quoi.
Ouais. Fran disait aussi que le chien de Paddy, donc Kelly, était souvent au milieu de la route ou sur sa propriété.
Ok.
Ah, et il y a aussi un autre truc. Alors ça, je pense qu'on va l'entendre qu'en Australie. Les deux se plaignaient également de corps de kangourous morts qui auraient été déplacés dans leurs propriétés respectives et ils se renvoyaient la balle mutuellement.
C'est vrai. Vous avez un corps là pendant un corps de kangourou qui faisait genre l'aller-retour pendant quelques temps.
C'est ça. Et donc je pense on n'aura pas ça en France, quoi. De notre côté.
C'est vraiment un truc culturel, je pense, ouais. Mm. Spécifique à l'Australie.
Mm. Donc en 2016, Fran a demandé une ordonnance de restriction contre Paddy. La demande a été rejetée par la cour et Fran a été d'ailleurs condamné à payer à Paddy $500 en frais de justice. À la suite de ce conflit, en septembre 2016, Fran et Paddy ont conclu un accord écrit qui exigeait que les deux parties restent civiles l'une envers l'autre en tout temps.
Et ouais.
je vais vous lire un petit peu l'accord parce que je le trouve sympa. Nous, Fran Hodgetts et Patrick Moriarty, nous engageons à limiter nos interactions aux nécessités absolues, respecter la vie privée de l'autre, répondre à l'autre s'il fait un signe de main pour saluer, se sourire mutuellement, laisser les affaires passé au passé tant qu'elles ne se reproduisent pas, comme par exemple des dommages causés aux plantes ou à la propriété, des vols, ou d'interférer dans les affaires ou le business de l'autre.
Donc, ok. Voilà.
Ça donne un peu l'impression qu'ils sont allés dans le bureau du proviseur qui leur a fait signer un truc.
Voilà, exactement. C'est vraiment le « bon, ben maintenant on se parle plus, etc. On s'ignore, on fait comme si de rien
n'était. » On se sourit quand même, c'est important de se sourire.
Ouais, c'est fou, quoi. Et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est un truc... Enfin, je sais pas si t'as pu lire du coup dans ton rapport, mais est-ce que le coroner, il précisait que c'était quelque chose qui se faisait ou c'était vraiment étonnant de faire ce genre de lettre un peu, justement... Enfin, c'est quelque chose qui se faisait souvent ou c'est vraiment un truc déjà où il trouvait que c'était assez étrange et qu'il y a anguille sous rôle justement à cause de ce type d'éléments-là?
En fait, je pense pas que ça se faisait très souvent.
Ouais.
Mais tu vois, on était affaire à deux vieux, en fait, il y en avait un de 70 ans, l'autre de 75 ans, et ils se sont dit, bah,
c'est vrai.
On va tenter ça, ça va peut-être marcher.
Exactement, je pense que c'est ça, t'as raison.
En tout cas, Fran et Paddy ont signé ce document le 7 septembre 2016. Okay. En août 2017, Fran a embauché Owen Laurie comme jardinier pour sa propriété. Donc Laurie, c'est un boxeur de 70 ans à la retraite.
Okay.
Il vivait assez reclus depuis son arrivée à l'Arima. Il passait tout son temps soit sur la propriété du coup de Fran à travailler, donc à jardiner, soit dans son bungalow, qui était aussi sur cette même propriété d'ailleurs, qui était fourni comme logement par Fran.
Okay.
Il a déclaré qu'il connaissait personne en ville à part Fran, et les habitants de la ville étaient d'accord. La plupart l'avaient jamais vu en fait.
Okay.
Et immédiatement après l'avoir embauché, Fran lui a parlé de la querelle en cours entre elle et Paddy. Il a déclaré qu'il avait senti du glyphosate, un poison végétal, sur les plantes de Fran, donnant du crédit du coup aux accusations contre Paddy.
Ok.
Laurie, qui a admis plus tard que lui aussi il avait du tempérament, il aurait dit à Fran qu'il assassinerait toute personne qu'il surprendrait en train d'emprisonner ses plantes.
Il est un peu sanguin, non?
C'est un ancien boxeur.
Oui, bah ouais, forcément.
Peut-être, peut-être. Il a aussi admis aux enquêteurs qu'il avait fait cette déclaration, mais il a quand même dit que c'était une blague qu'il pensait pas. Il a aussi dit aux enquêteurs qu'il estimait que Fran était sujette au drame et à l'exagération, et ça m'étonnerait pas trop vis-à-vis de toutes les plaintes. Alors je sais pas hein, ce que Paddy faisait vraiment, mais ça faisait beaucoup de plaintes, je trouve quand même.
Ça fait beaucoup de plaintes pour que ce soit faux en tout cas, et pour que ce soit peut-être exagéré, oui, mais pour que ce soit faux, non.
Ouais. Malgré le conflit, Laurie a déclaré que lui et Paddy n'avaient jamais eu d'interaction personnelle jusqu'à quelques jours avant la disparition. Et là, ça devient intéressant. 3 jours avant la disparition de Paddy, le mercredi 13 décembre 2017, Laurie et Paddy ont eu une altercation verbale. Selon Fran, la veille, elle avait vu Paddy traîner un kangourou mort sur sa propriété. Donc toujours hein, les kangourous. Je sais pas où ils vont les chercher. Bon.
Vraiment. Beaucoup d'efforts quand même. Hein.
Ouais. Le matin du 13, Laurie était donc chargée de déplacer le corps du kangourou, mais il a rien trouvé, hein, il a trouvé aucun corps. Donc est-ce que c'était une invention de Fran? Toujours est-il qu'il a croisé Paddy à ce moment-là, et que c'est justement à ce moment-là qu'il a eu une altercation avec lui, alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la route. Laurie a dit à Paddy, je cite, de garder son putain de chien à la maison. Paddy lui a répondu de la fermer, et Laurie lui a dit de venir, tu vois, pour s'expliquer, mais
ouais,
rien de plus. Ils sont tous les deux retournés à leurs affaires, et aucune autre altercation n'a eu lieu. Donc ça, c'était la version de Laurie. Hein. À seulement 300 mètres de là, à l'hôtel, le barman a entendu la dispute alors qu'il était assis en train de boire son café tranquille, tu vois.
Ouais.
Dans son récit des événements, il se souvient avoir entendu des cris et des voix en colère, mais il ne pouvait pas entendre les mots exacts. Quelques heures plus tard, lorsque Paddy est venu à l'hôtel pour déjeuner, le barman l'a interrogé sur la dispute. Et donc, voici la version de Paddy. Laurie lui aurait dit, je cite, « Ferme la gueule de ce putain de chien ou je le ferai pour toi. » Ce à quoi Paddy aurait répondu, « Tu t'occupes de tes affaires, mon vieux, mon chien peut aboyer où il veut, ce ne sont pas tes affaires, ferme ta gueule ou je t'arrache les genoux. » Voilà, il avait un peu de tempérament, Paddy.
Ouais, aussi, hein. C'est pas très cordial quand même.
Le barman a quand même averti Paddy de faire attention. On a quand même affaire à un ancien boxeur. Hein. Ce à quoi il a répondu, tout va bien, j'ai une batte de baseball. Bon, il n'aura pas eu le temps de l'utiliser au final. Hein.
Cette histoire, cette fameuse batte de baseball.
Exactement, on y revient. Maintenant, on a tout le contexte. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Paddy ce jour-là? Eh bien, selon le coroner, voici le déroulé de sa dernière journée. Le jour de la disparition de Paddy, le samedi 16 décembre, Fran et Owen avaient installé de nouvelles plantes et des dispositifs d'arrosage dans le jardin du salon de thé. Tandis que Paddy et Kelly suivaient leur routine quotidienne, ils sont arrivés à la maison vers 18h30. À un moment donné, après être rentré de l'hôtel, Paddy est sorti avec son chien. Alors, on ne sait pas vraiment de l'endroit où ils sont allés, mais il est probable que les nouveautés chez Fran aient pu l'attirer.
Okay.
Il a l'air un petit peu curieux, le Paddy, hein, pour tout ce qui se passe chez Fran.
Ouais.
Et les événements qui ont eu lieu après que Paddy ait quitté la maison ont conduit à sa mort, qui était, toujours selon le coroner, le résultat de la querelle des voisins.
Okay.
Mais les détails sur quoi et qui a exactement causé la mort de Paddy, ainsi que l'emplacement des corps de Paddy et Kelly, restent inconnus. L'enquête, elle est limitée à la fois par la portée professionnelle du coroner, comme je l'avais expliqué, hein, et par le manque de preuves matérielles.
Okay.
Et je dis bien preuves matérielles parce qu'on a quand même quelques documents intéressants. notamment des enregistrements audio captés par la police dans le bungalow de Laurie, qui est sur la propriété de Fran. Ils ont réussi à obtenir 8 enregistrements de Laurie qui révèlent le meurtre choquant et violent de Paddy et Kelly, qu'il aurait lui-même commis. Alors, ces enregistrements, j'ai cherché, mais ils ne sont pas disponibles sur Internet, on ne peut pas les écouter.
Okay.
Mais dans le document du coroner, ils sont retranscrits. On y entend Laurie parler parfois tout seul, parfois à son chien, et d'autres fois, il chante, en fait. Et donc, on a quelques citations intéressantes que je vais vous lire. « J'ai tué Paddy et frappé à la tête. Je l'ai frappé sur son nez avec mon marteau. » Voilà, autre citation, toujours sur le marteau. « Ils n'ont pas trouvé le marteau, donc ils n'ont rien contre moi. » Voilà. « Il a aussi fait une chanson à propos de son marteau, qu'il a chanté à la guitare, a priori. » C'est un guitariste.
Ok. Laurie.
Je vais vous lire un petit peu les paroles de sa chanson. Peut-être qu'en fin de live, on la chantera, si vous voulez, tous ensemble. C'est un marteau tueur. Un marteau tueur, j'ai un tas de noix de coco baveuses. Elle roule dans la baie, roule dans la baie. J'ai tué le vieux Paddy avec mon marteau tueur. J'ai frappé sur la putain de tête et je l'ai tué. Je l'ai frappé, je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué. Je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué. Je l'ai battu.
Ah, c'est terrifiant.
Ouais.
C'est terrifiant.
Et dernière citation où il parle à son chien. Il lui demande, il dit « Ruby, t'as fait quoi de mon livre ?»« Je vais moi-même te tuer, je tue des chiots, je tue des chiots. »
Ok. j'ai beaucoup de choses là qui reviennent quand même. Est-ce que juste Laurie était quelqu'un de... Enfin, est-ce qu'il y avait des témoignages ou des choses comme quoi il serait... Est-ce qu'il est sain d'esprit ? Est-ce qu'il a eu des troubles mentaux qui ont été détectés ? Est-ce qu'il a été décrit par des... Non ?
Alors, personne ne le connaissait vraiment.
Ouais, c'est ça.
À part Fran un peu, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas dans la juridiction du coroner que de demander de faire une analyse approfondie sur une personne.
Ok.
Donc il peut pas le faire. On a quand même une idée du personnage avec ses enregistrements.
Ouais, sacrée idée.
Au cours de l'enquête, le coroner il a quand même fait écouter les enregistrements à Laurie, hein, qui s'est d'abord défendu en disant que la voix qu'on entendait c'était pas la sienne et qu'il avait aucune connaissance de la disparition de Paddy. Il a ensuite choisi de garder le silence pendant tous les autres interrogatoires de l'enquête. Fran, de même, a nié avec véhémence toute implication dans la disparition de Paddy. Elle a admis au cours de l'enquête qu'elle avait probablement menacé de tuer Paddy des millions de fois, mais elle a quand même insisté sur le fait qu'elle ne l'aurait jamais fait, et que de toute façon, son âge et son arthrite l'auraient empêché de commettre un tel crime. Le corps de Paddy n'a jamais été retrouvé, pas plus que celui de Kelly. Donc, étant donné justement que les conclusions du coroner ne suffisent pas à elles seules à engager des poursuites pénales, la question de la mort de Paddy a été renvoyée par le coroner au commissaire de police et au directeur des poursuites publiques pour donner suite à l'enquête. À l'heure actuelle, rien de plus n'a été révélé depuis la publication des conclusions du coroner qui date d'avril 2022 et aucune arrestation n'a été effectuée. Donc, en conclusion, on ne sait pas où sont les corps de Paddy et sa chienne. On est sûr à 99% quand même que c'est Laurie qui a commis le meurtre avec un marteau. Le marteau, d'ailleurs, il a pas non plus été retrouvé. Les enregistrements suffisent pas. Et on ne sait pas en fait si l'enquête a été prise en compte par une instance qui pourrait la mener jusqu'au bout. On ne sait pas si quelqu'un s'en occupe actuellement.
Okay.
Parce que peut-être qu'actuellement, il y a quand même quelqu'un dessus.
Mais elle a été envoyée, dans tous les cas, enfin, elle est, entre guillemets, dans une pile quelque part, elle va être...
J'espère que dans un prochain épisode, j'aurai une conclusion à donner positive, quoi.
Ouais.
Mais pour le moment, on peut pas dire que l'affaire soit résolue. Le degré de mystère est quand même assez faible.
Je trouve que c'est quand même assez étrange, parce que la manière dont il a disparu... Alors certes, dans le village, il n'y a que 13 personnes, donc je pense que niveau témoin, il y a pire, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des endroits où c'est plus difficile, je pense, à cacher un corps. Mais je trouve ça assez dingue, quand même, cette histoire. Et surtout que tu dis qu'il avait... Enfin, de base, Paddy avait des habitudes très strictes tous les soirs, tous les jours, toute la routine, la journée
était hyper... C'est un homme très routinier, ouais.
Voilà, et je trouve que ce côté-là, justement, ça donne 90% du ton, comme quoi c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, et que justement, c'est dont peut-être tu parles, ces histoires de voisinage qui auraient mené à bout toute cette histoire. Mais moi, l'histoire du chapeau, déjà, quand tu m'as dit il n'avait pas de chapeau quand il est sorti à Revelle, il a toujours un chapeau, il a un peu... Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc il a disparu, il n'est pas parti de lui-même, il a été tué ou quelque chose, ça c'est sûr. Alors, c'est le genre de petit détail, je trouve, qui fait vraiment ces petits détails bêtes, mais qui font que vraiment, c'est ça, en fait, qui me donne ce côté disparition. Non, ils n'ont pas disparu d'eux-mêmes, c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose, quoi.
Et Nice qui dit, ça me rend folle, l'histoire des enregistrements inutiles. Ils ne sont pas inutiles. Enfin, ils pourront servir quand même plus tard. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que ça aille pas plus vite avec toutes ces preuves.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et sinon, pour finir quand même, a priori, Laurie ne travaille plus chez Fran. Mais la vie continue quand même dans la petite ville de Larima. Le salon de thé de Fran est toujours ouvert. C'est son petit-fils Brent qui a repris l'activité depuis avril 2021. Et les avis sont bien meilleurs depuis que c'est lui qui est aux commandes. Et quand j'ai vu là, les dernières photos, ça me donnerait bien envie de m'y arrêter, goûter une petite tarte et aussi vérifier l'ancienne station-service de l'autre côté de la route quand même. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à toi, Soline, pour ton intervention. C'était super chouette.
Bah, c'était avec plaisir et je me suis bien amusée avec ces deux histoires qu'on a pu raconter.
Ouais, t'as bien aimé.
Ouais, raconter un peu vos théories aussi, mais c'est vrai que ces deux histoires qui sont un peu mystérieuses, donc je suis hyper contente d'être là et merci à toi pour ton invitation.
Bah, pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est assez simple. Mon podcast se trouve sur Spotify, Apple Podcast, pardon, et encore. Et si jamais vous voulez suivre un petit peu les infos de mon podcast, c'est sur Instagram, crime-enragé, et vous allez trouver toutes les actus sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre.
Et il y a déjà une saison d'enregistrer, deuxième qui commence ?
Exactement, il y a déjà une saison. Ouais. Et la deuxième saison débute. Là, on va avoir le deuxième épisode. Si tout va bien, il sort vendredi prochain. Et donc, voilà. Là, ça roule. Tout roule bien. Donc, je suis contente. Et j'espère que ce prochain épisode va plaire. Voilà.
Ok. Donc, tu vas être obligé de ressortir un autre épisode. Parce que là, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, là, il sortira le vendredi d'après, le vendredi prochain.
Donc,
tu vas être obligé de faire deux épisodes.
Bah, c'est le boulot, ouais, c'est ça. Bah, en vrai, je me suis posé la question, mais voilà, je m'étais dit que c'était bien quand même de sortir un épisode. Et puis, en vrai, l'histoire, elle m'intéressait beaucoup sur celle que je voulais sortir. J'ai fait beaucoup de recherches dessus et je me voyais pas si... En fait, si je l'enregistrais pas dans la semaine, j'allais encore faire des recherches pendant des semaines et des semaines et ça m'aurait pris la tête, en fait.
Ça, c'est le pire,
donc,
ça.
Donc je l'ai enregistré. En fait, ça m'a un peu... parce que sinon, je sais que j'allais rester dessus. Et ça, c'est un des problèmes quand tu fais des recherches beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une affaire qui te passionne. Tu t'arrêtes, en fait. Et il faut savoir s'arrêter. Donc, deux épisodes pour le mois de février.
C'est très bien. C'est très, très bien.
Ouais.
Alors moi, pour ma part, je vous avais dit en début de live que j'avais des choses à vous annoncer ce soir. La première annonce, c'est que c'est officiel. Je suis passé en indépendant et je travaille maintenant dans le monde du podcast. Et donc, mes activités, elles se résument pour le moment en deux socles, on va dire. Le premier, c'est celui que personne ne voit parce que ça consiste à travailler pour d'autres podcasts, les podcasts des autres, quoi. Et le deuxième, c'est ma propre activité podcastique, comme Rendez-vous l'étrange, Avant d'aller dormir, tout ça, vous connaissez. Donc j'ai commencé à développer le premier socle. Ben merci, hein, merci le chat, c'est gentil. Donc j'ai commencé à trouver mes propres clients, donc tout se passe bien, ça va bien.
Trop cool.
Mais j'aimerais quand même développer maintenant le deuxième socle, hein, donc mes propres activités. D'où, attention, la deuxième annonce. Le Rendez-vous de l'étrange n'est plus un podcast mensuel, terminé. Il y aura maintenant deux épisodes par mois, un public et un privé.
Yay. Trop bien.
Ouais, ça va demander du taf, mais je suis bien pressé. Le public, il sera enregistré le premier vendredi de chaque mois sur Twitch. Donc à partir du mois prochain, parce que là, on n'est pas le premier vendredi du mois, hein, je me suis craqué. Mais à part, voilà, on aura un vrai rendez-vous, ce sera le premier rendez-vous du mois maintenant. Et le privé, lui, du coup, il sera pas enregistré en live. Il sortira directement sur Patreon le dernier vendredi du mois. Voilà. Donc si vous êtes pas Patreon, si vous êtes pas patron, ça change rien pour vous. Vous aurez toujours un épisode par mois. Mais sachez quand même que vous ratez dorénavant la moitié des épisodes. Donc voilà, je vous cache pas que c'est un peu un pari, en fait, de créer des épisodes seulement sur Patreon. Parce que ça fait beaucoup de travail pour peu d'auditeurs. Mais si ça fonctionne, ça me permettra de tout simplement pouvoir continuer mes activités, voilà, de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Podcasteur indépendant. Et puis l'argent généré retournera directement dans les productions des prochains épisodes. Ce serait le but. Voilà. Et l'OnlyFans du rendez-vous de l'étrange, ouais. C'est pas encore au programme.
Ça me faisait...
si vraiment c'est la galère, j'y réfléchirai. Mais... donc voilà, en parlant d'argent, je voudrais quand même en profiter pour remercier Nadia Pinupch. Merci Nadia pour le sub de ce soir, pour ton troisième mois. Je voudrais aussi remercier les patrons existants, Rémi, Valentine, Xara, Vanille et Ingrid. Donc si vous souhaitez vous aussi entrer dans la famille et m'aider à pérenniser tout ça, bah, c'est à partir d'1€ par mois pour avoir accès aux épisodes en avance et sans pub. Et à partir de 3€ pour avoir accès aux autres épisodes, donc les épisodes privés, des coulisses aussi. J'ai envie de mettre en place des coulisses. Ça coûte donc moins cher qu'un sub, hein. Ça coûte moins cher qu'un sub sur Twitch et ça vous donne accès à du contenu sans pub. Vous donnez aucun argent à Jeff Bezos, ça aussi c'est cool. Tiens, bah, je vais mettre le lien pour me soutenir dans le chat et il sera aussi dans la show note. Donc voilà pour les annonces. Si vous voulez, pour ceux qui sont sur Twitch, si vous avez des questions, voulant en savoir un petit peu plus sur ma nouvelle vie, on pourra en discuter juste après, il n'y a pas de souci. En attendant, si on résume, je vous donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour le live du Rendez-vous de l'étrange, chaque troisième aussi vendredi du mois pour un live de lecture d'histoires flippantes, toujours ici sur la chaîne Twitch, et chaque dernier vendredi du mois pour l'épisode privé. Le prochain parlera des histoires vraies derrière les films Annabelle et l'homme au masque de fer. Il a déjà été enregistré. Et petite dernière annonce plutôt cool. Bon, là, c'est vraiment la soirée des annonces. Hein. Le prochain épisode public, j'ai entendu un peu parler dans le chat à un moment donné d'Elisa Lam. On va revenir sur cette affaire. Pour ceux qui connaissent pas l'affaire, c'est une jeune femme qui était retrouvée dans la cuve d'eau d'un hôtel, le Cecil Hotel, il y a maintenant 10 ans. Eh bien, j'aurai avec moi quelqu'un qui séjournait au Cecil Hotel à ce moment-là.
Donc mais non.
Et si cette personne sera là, en live.
Ce teasing de feu de Dieu.
Et elle répondra à toutes nos questions, donc n'hésitez pas à venir directement les poser. Ce sera donc le 3 mars à partir de 21h30. Voilà, trop voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mais merci encore à toi, Soline.
Merci à toi.
T'hésites pas à repasser quand tu veux, t'es la bienvenue.
Ça marche, bah avec plaisir. Et bah merci pour ton invitation. Et merci pour ce moment partagé qui était super cool en tout cas. Et bah à très vite.
Ça marche. À bientôt tout le monde. Et puis bah prenez soin de vous. Bisous.
Ciao.